Salut Cyril.
Salut Christophe, qu'est-ce qu'on attend là?
Bah devine, on attend la plus belle, la princesse, on attend Anna pour commencer l'émission quand même.
Encore?
Bah oui, toujours en retard. Ah! Ah, bah tu sors d'où?
Bonjour messieurs, je vous prie de m'excuser, je suis un peu en retard.
Bonjour Anna. Mais tu sors d'où comme ça?
Mais d'un livre dans le café.
Ah, t'étais au rendez-vous des médiathèques?
Mais absolument. Et j'ai rencontré une fille formidable qui s'appelle Liz Beninka.
Et tu peux nous dire qui est Liz Beninka, s'il te plaît?
Ah, parce que vous ne connaissez pas Liz Beninka?
Pas encore, mais je pense que grâce à toi, on va se découvrir vite de qui il s'agit.
Ah, mais c'est une merveilleuse écrivaine qui a passé plusieurs mois chez Emmaüs Défi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait chez Emmaüs Défi? Eh bien, elle a eu envie de parler des objets qui se passe de main en main avant d'être mis en vente dans les bric-à-brac, messieurs, voyez-vous. Et donc, elle en a fait un livre qui est intitulé « Des objets de rencontre ».
Oh là, attends, quand tu prononces le mot « livre », fais attention parce que je suis pas sûr que Cyril et Lise, tu lis Cyril, toi, à part « Oui, oui, la voiture jaune », non?
Ah non, je déteste ça.
Mais c'est pas possible. C'est inconcevable, mon cher Cyril. Il faut lire, et il faut lire particulièrement l'ouvrage de Liz Beninka, qui a parlé de ces hommes, de ces femmes, qui sont salariés en réinsertion, des travailleurs sociaux, parce qu'elle a parlé d'eux, et elle en parle formidablement bien.
Eh bien, c'est parti. Allons-y pour ce beau voyage.
Bon, c'est vrai, la lecture au début, quand tu sais pas, t'es là, tu feuillettes.
Ouais, bof, pas d'image. Non, tu t'emmerdes, tu vois, tu regardes les mots, il y a rien d'autre à foutre, assez bourré de mots, hein. C'est chiant, hein. Non, méga chiant. Puis d'un seul coup, tous ces mots, côte à côte, oh, ça fait des phrases. Et ces phrases, côte à côte, oh, ça raconte une histoire.
Ulysse, la vie littéraire.
Bonjour Lisa Seppel.
Bonjour Christophe.
Alors dites-moi, comment est né le projet Un livre dans le café?
Alors, c'est une idée qu'on a eue avec une collègue donc de la médiathèque Gérard Philippe, Estelle Moreau. Et donc, en fait, on voulait mettre en avant le livre autour d'une animation et faire en sorte que les publics des deux bibliothèques de quartier puissent se rencontrer, circuler et qu'il y ait un temps d'échange autour du livre pendant une heure et demie, quelque chose de convivial et de faire découvrir des auteurs, que les lecteurs puissent présenter leur coup de cœur, qu'on puisse présenter des nouveautés, voilà, vraiment avoir un échange autour du livre.
Alors pourquoi le choix de Liz Beninka?
Comme la thématique de cette année c'était l'ombre et la lumière, on a voulu aborder ce thème sous l'angle des exclus et des marginaux. Mm-hmm. Et comme son livre traite d'Emmaüs et des personnes en insertion, ça nous a semblé tout naturel.
Alors, c'est un excellent choix et d'ailleurs, nous allons tout de suite écouter Liz Beninka qui a eu la gentillesse de pouvoir répondre à nos questions grâce à vous et suite à la rencontre qu'elle a eue avec les Campinois. On écoute tout de suite.
Parole d'écrivain.
C'est toujours émouvant justement de voir que les gens parlent d'un livre qu'ils ont lu, que nous on a écrit il y a déjà un certain temps. Du coup, le livre a fait son chemin et puis il a vécu dans la tête des gens. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir justement des questions qui font qu'on soi-même on est obligé de réfléchir à ce qu'on a fait. Parce que quand on écrit, on n'est pas forcément toujours en train de se demander qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est après, avec les questions des lecteurs, qu'on se met soi-même à avancer plus avant même dans ce qu'on a fait.
Alors, quand l'auteur est face à sa page blanche, comment se passe votre processus de création?
Mais alors, en effet, je peux parler seulement du mien parce que je pense que c'est différent selon chaque auteur. J'en connais qui ont un scénario en tête dès le départ et qui savent où ils vont, du début jusqu'à la fin, même s'ils reprennent forcément des choses en cours de route. Mais moi, j'avoue que j'ai toujours un thème très précis autour duquel je veux travailler et que je veux creuser, en fait. Et donc, je vais prendre ce thème-là et puis tourner autour jusqu'à ce que...
Vous n'avez pas le lâcher.
Je ne vais pas le lâcher. Et donc, oui, c'est exactement ça. J'accumule de la matière sur ce thème, mais ça va être peut-être un mot que je vais entendre quelqu'un dire dans la rue et qui soudain m'évoque quelque chose par rapport au thème auquel je suis en train de travailler. Je vais le noter, des lectures, des choses, des... Voilà, je fais un peu comme un vampire aussi qui vole un peu de ci, de là, des choses. J'observe, je me remets beaucoup dans cette posture de... Je me place dans ce thème-là, me dis qu'est-ce que ça m'évoque, à quoi ça me fait penser. Donc, ça va être des souvenirs, toutes sortes de choses, des images. Et j'accumule tout ça. Et une fois que j'ai l'impression que la matière est à une bonne densité, j'ai envie de dire, eh bien, je vais fouiller dedans et essayer d'en sortir une ligne directrice qui va me donner une histoire. Mais dans ce que j'écris, il y a toujours une histoire très ténue, en fait. Je travaille beaucoup sur le ressenti, et donc je vais malaxer cette matière pour faire ressentir vraiment ce que j'ai envie que le lecteur en reçoive.
Vous parliez de Pérec tout à l'heure.
Oui.
C'est aussi un phare dans la nuit. Quand on écrit, on se dit « Ah tiens !»
Pérec utilise beaucoup la contrainte comme tremplin pour l'écriture. C'est-à-dire que s'imposer un rituel, moi c'est une chose que je fais beaucoup, de m'imposer un rituel d'écriture pour lancer, pour démarrer le moteur, quoi. Et ça évite d'être justement angoissé à se dire « Bon, alors aujourd'hui, est-ce que je vais y arriver ou pas ?»
Ce que vous disiez une de vos lectrices, vous posez la question de la page blanche, l'angoisse de la page blanche, vous ne l'avez pas.
Non, j'ai pas tellement l'angoisse de pas savoir quoi écrire, mais j'ai l'angoisse de pas savoir comment le dire, ouais.
Comment le formuler.
Voilà, comment le formuler, c'est ça. Comment commencer, est-ce que mon personnage va dire « je » ou est-ce que cette fois, ça va être un « il » de quel point de vue je me place, est-ce que c'est plutôt l'homme ou la femme, ou est-ce que je fais parler complètement autre chose, quelque chose d'évanescent pour utiliser. Et toutes ces questions me travaillent beaucoup et je perds beaucoup de temps à me poser des questions comme ça.
Vous disiez que vous étiez dans l'observation, vous êtes fonctionné comme un peu une éponge des choses qui peuvent vous transpercer de toutes parts, mais la part de vous-même dedans, tout à l'heure, quelle est la part d'autobiographie quand on écrit, même quand on est en immersion au sein d'une structure comme Emmaüs, voilà. Mais quelle est la part de soi-même? Parce qu'il y a toujours des traces, il y a toujours des... Et il y a forcément, bien évidemment, alors sans aller dans le mot pathos et de la souffrance, etc., mais ça demande un gros travail. C'est-à-dire que quand on écrit sur le... Voilà, quand on écrit, même sur les autres, on écrit forcément un peu sur soi.
Ben oui, en fait, je pense que déjà les thèmes sur lesquels on se penche font écho en nous pour des raisons où, parfois dont on n'a même pas forcément conscience au départ. Et puis, en fait, on se sert forcément de choses personnelles parce que c'est ça qui va nourrir aussi, c'est ça qui va être le noyau dur, en fait. Même si c'est pas présent dans le livre, on va pas raconter une histoire qu'on a vécue, mais on va se servir de ce qu'on a ressenti dans cette histoire. Par exemple, mon livre Les Autres Paradis, qui raconte l'histoire d'un deuil, j'ai pas vécu ce deuil-là dans un couple, mais j'ai pu vivre des ruptures amoureuses qui m'ont évoqué. Et donc, je vais me servir de ce matériau personnel que j'ai moi-même expérimenté pour l'utiliser aux fins qui me sont chères dans le livre.
Alors Lise, pour faire un parallèle, je voulais vous parler de François Sagan et de la petite musique dont on a parlé longtemps et encore aujourd'hui, qui a aussi contribué à lancer sa carrière, la petite musique de François Sagan dans sa manière de rédiger, d'écrire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ?
Elle n'est pas forcément là, mais je la cherche. Parce que c'est vrai que le rythme, c'est quelque chose que moi je retravaille énormément mes textes. C'est pour ça aussi qu'ils sont courts et qu'il y en a peu. Je passe des heures à changer un mot pour un autre, raccourcir une phrase, essayer de faire que les paragraphes fonctionnent en eux-mêmes. Par exemple, souvent, je fais une petite chute interne à la fin d'un paragraphe. C'est-à-dire que j'ai envie que chaque paragraphe soit un petit univers en soi. Voilà. Et donc ça, en effet, il y a une espèce de qu'il y a une respiration, un souffle, que on sache. Il y a un exercice qui est intéressant à faire, c'est dans un texte d'enlever toute la ponctuation et de le lire à voix haute. Et on se rend compte, si le texte est bien fait, que la respiration va se poser aux bons endroits d'elle-même, en fait. Les mots fonctionnent, sont agencés de la bonne manière.
En vous écoutant comme ça, en fait, vous me faites penser à... Vous connaissez Claude Lemel? Claude Lemel, un auteur, mais pas un auteur de roman, c'est un auteur de chansons. C'est-à-dire que...
J'ai lu son livre, je me disais son nom.
Et en fait, en vous écoutant...
Il a écrit un livre chez Erol.
Ouais, et en vous écoutant, j'ai envie de dire, mais vous n'avez jamais eu envie d'écrire des textes de chansons, parce que c'est exactement ça. Claude Lemel dit ni plus ni moins que ce que vous venez de citer.
Mais complètement. D'abord, j'ai lu son livre et je me disais, oui, Claude Lemel, je cherchais un romancier, ça ne me disait rien. Mais oui, j'ai lu son livre sur les chansons parce que j'ai eu l'occasion d'écrire des chansons pour une comédie musicale elle n'a pas encore été montée. Parce qu'on m'a demandé comme ça, tu pourrais pas écrire, c'est par une musicienne que je connaissais. Et au début, je me suis dit, non, je sais pas écrire des chansons. Puis en fait, mais une chanson, c'est un poème. Et puis en fait, un poème, c'est un rythme de mots. Et les mots que j'agence dans mes phrases, c'est déjà ça, en fait. Et donc, oui, j'ai lu ce livre parce qu'il est en plus, il explique quelque chose qui m'a frappée, maintenant auquel je fais attention, comment il a même écrit des chansons en reprenant une mélodie déjà existante.
C'est ça.
Par exemple, il y a cette chanson de... Ah, ça, c'est génial. De... Comment elle s'appelle ? J'ai mis de l'or dans mes cheveux. Dalida.
Il venait d'avoir 18
ans. Mais c'est pas... Ouais,
alors ça, c'est une chanson de Pascal Sevran, effectivement. Et vous savez comment il a écrit...
Et l'autre chanson de Aznavour...
J'habite seul.
Voilà, et c'est la même mélodie.
Voilà, c'est ça. Alors, la rythmique est effectivement la même. Et c'est Jean-Jacques Devaux et ouais. Sevran, effectivement. Ils ont écrit effectivement cette chanson comme ça. Et sans rien dire d'ailleurs, sans dire à Dalida.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, tout à fait, c'est assez troublant.
Et en fait, on ne se rend pas compte.
Non, faut surtout pas dire à un auteur, surtout pas dire à un musicien.
Mais il y a quand même quelque chose de familier qui est là et qui sonne juste et on ne sait pas pourquoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais.
On est dans quelle humeur quand on écrit ? Est-ce qu'on est, justement, quand on a une vie de couple ou pas ? Est-ce qu'on est, quand on est face à la création, à l'acte de création, d'écriture ? On est dans quelle humeur ? On est de bonne humeur, mauvaise humeur ? Ça dépend des passages qu'on écrit ?
Moi, je ne suis pas trop de bonne humeur quand j'écris. J'aime pas qu'on me dérange. Et à la fois, maintenant, j'aime de plus en plus écrire dans les cafés, tout ça, pour ne pas être seule, justement, enfermée là-dedans. Parce que c'est assez dur d'en sortir. Moi, j'ai une famille aussi, et c'est assez dur... Quand on sort de son bureau, allez, je fais à manger et tout. Et d'être dans la vie, en fait. Je me rends compte que je suis pas tellement dans la vie quand j'écris. Et ça me rend un peu triste, en fait. C'est pour ça que le livre écrit sur Emmaüs, où j'ai eu l'impression de l'avoir écrit avec des gens, m'a fait du bien, parce que je suis sortie de cet isolement. Et surtout, ça m'a fait comprendre qu'on n'est pas obligé d'être isolé.
Donc c'est une œuvre collective.
J'ai tout écrit, mais j'étais accompagnée par les gens dont je racontais les parcours. Et ça me donne envie aujourd'hui de continuer plutôt ça. J'ai plus envie d'être toute seule dans mon bureau en train de me malaxer le cerveau. J'ai envie qu'il se passe des choses. C'est pour ça que j'ai envie de faire d'autres résidences. J'ai envie que ce soit quelque chose qui s'élabore en compagnie d'autres auteurs, d'autres gens. Pas toute seule à mon bureau.
L'auto-édition, c'est cool. Quoi ? C'est compliqué ? C'est quand on n'a pas les réseaux, quand on veut écrire et qu'on a des histoires, qu'on porte en nous, en soi, des histoires qu'on a envie de transmettre ? Parce que je pense que vous êtes devenu écrivain par hasard ou par défaut ou par qualité ?
Je ne suis pas devenue écrivain par hasard parce que...
C'est quoi être écrivain ?
Ouais, alors c'est quoi être écrivain ? La plupart des gens disent ça, mais ça m'amuse quand les auteurs disent du plus loin qu'ils m'en souviennent. J'ai toujours écrit, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai tenu un journal intime dès que j'ai su écrire. Je me souviens quand on m'a offert mon premier journal intime avec un pierrot rose tout moche dessus, mais n'empêche que je me suis mise à écrire tous les jours dedans. Et j'ai tout de suite vu ce que ça m'apportait, en fait. Ce que ça m'apportait aussi vis-à-vis des autres, le fait que à la fin de la journée je l'écrive, ça intrigue, il y a une espèce de mystère qui s'installe, ça donne un peu un pouvoir de mystère que j'ai su utiliser rapidement, parce que le journal intime, c'est personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais n'empêche que les gens vous voient écrire. Et donc j'ai senti ce que ça pouvait procurer de plaisir
on
aussi.
On regarde différemment.
Voilà. Ça permet soi-même de regarder sa journée différemment, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce qui est une journée qui est a priori banale. N'empêche qu'on a toujours 3 pages à écrire dessus, même si on a rien vécu d'extraordinaire. Parfois, ça va être 3 pages où on se plaint qu'il ne se passe rien et qu'on s'ennuie. Mais n'empêche qu'on produit quelque chose à partir de cet ennui. Moi, c'est ça qui m'a plu dès le départ. C'est que peut-être que dans ma vie, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je peux produire quand même quelque chose avec. D'intéressant au moins pour moi. Voilà. Ouais. Après, le fait de vouloir être lu... Moi, j'ai mis longtemps à faire lire mes textes. Et le premier que j'ai envoyé vraiment par la poste à des éditeurs, j'ai attendu d'être vraiment sûre de penser, d'être convaincue qu'il avait un intérêt pour quelqu'un d'autre que moi. Parce que j'en avais écrit d'autres avant. Et puis, je m'étais dit, bon, voilà, t'es contente d'avoir écrit ça. C'est très bien, mais ça n'a pas d'intérêt pour quelqu'un d'autre. Et celui-là, je me suis dit, c'est une réflexion qui peut quand même toucher quelqu'un d'autre. J'ai envie que ça touche quelqu'un d'autre. Le fait d'être publié, après c'est un peu compliqué parce que du coup on attend un retour, on a envie de savoir et puis on sait pas forcément. C'est le problème du livre, c'est que les gens lisent chez eux et c'est pas, n'y a pas d'interaction immédiate, quoi.
D'où ces rencontres que voilà. Les lecteurs que vous avez.
D'où l'importance des rencontres, ouais, ou parfois des courriers qu'on reçoit, parce que une fois qu'on est publié, on a envie de cet échange, mais on le reçoit pas forcément, parce que voilà, la lecture c'est un acte solitaire.
Et justement, est-ce que vous partez du principe, comme on parlait de chansons tout à l'heure, on disait que il y a certains auteurs qui disent que ben, à partir du moment où moi j'ai écrit la chanson, mais après le public est libre de l'interpréter comme il veut et ça leur appartient. Est-ce que pour vous, un livre, quand on a écrit un livre, bah vous avez donné le sens que vous souhaitiez, est-ce que vous dites voilà, après ça leur appartient ?
Bah oui, complètement. Après, j'aimerais bien voir le cheminement dans leur tête, justement. C'est de se dire, mais. Enfin, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, bah, ce que vous avez exprimé, c'est exactement moi ce que je ressens et que je suis heureuse de voir que quelqu'un a pu l'exprimer par des mots parce que moi, j'aurais pas pu le faire. Et puis, il y en a aussi, je me souviens d'une classe de collège qui avait étudié des passages de mon livre et qui m'avait écrit des courriers. Et j'avais été très étonnée de voir ce que les élèves avaient perçu de mon livre et qui n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais mis dedans. Et je me souviens d'un courrier en particulier d'un élève qui m'avait parlé de la séparation de ses parents, qui avait été très douloureuse pour lui et que mon livre lui avait fait du bien. Et je ne comprenais pas du tout par quel biais, mais enfin, j'étais très heureuse que l'effet était celui. Puis bah, il s'est senti moins seul parce que... En lisant le livre, il m'a parlé de ça et je trouvais ça frappant, quoi.
Lise, pour finir, auriez-vous un livre à nous recommander pour 2017 ? Je vois déjà l'œil de notre réalisateur Cyril Poirier, super réalisateur, qui enregistre cette émission depuis le studio de la Maison Porteuse du Bois-l'Abbé et qui n'attend qu'une chose, un livre que vous lui conseillerez de lire au cours de cette année.
Il y en a tellement. Là, je suis en train de lire Virginie Despentes, que je n'avais jamais lu jusqu'ici, Vernon Subutex, et en effet... Moi, chaque fois dont je suis éblouie quand je lis des auteurs comme ça, qui ont une puissance d'écriture, c'est de moi-même de me dire « Waouh, elle arrive à exprimer ça dans l'écriture !» Et je ne peux pas m'empêcher d'observer comment elle fait, voilà, comment c'est fait, comment elle est arrivée, comment elle a réussi à retranscrire cette sensation-là. Et donc, je peux le relire, mais un paragraphe 5 ou 6 fois pour voir comment c'est fait. Donc ça, j'adore. Quand un auteur me fait cet effet-là... Là, c'est Virginie Despentes, mais ça m'arrive vraiment régulièrement. Ou parfois, c'est juste un auteur qui est pas très, dont je ne suis pas très séduite par son écriture, mais ça va être 3 phrases au milieu du texte. Waouh, ces 3 phrases-là, rien que pour celle-ci, je suis heureuse de l'avoir lue. Mais sinon, je pensais tout à l'heure, quand vous disiez qu'est-ce que c'est être écrivain, pour moi, il y a un livre culte, c'est Le bruit et la fureur de Faulkner, parce que sur le plan du style et de qu'est-ce que c'est qu'écrire, en fait, il y a une scène dont je parle souvent quand on me demande « mais qu'est-ce que c'est avoir du style ? Qu'est-ce que ça fait d'écrire ?» C'est une scène dans laquelle le personnage est à la fois... Il est une sorte de pique-nique avec des amis, un truc assez sympathique. Et en même temps, il vient de vivre une scène dramatique avec sa sœur, de violence, d'échanges violents. Et donc, il a dans la tête des bribes de cette conversation qui reviennent, de ce qu'ils se sont dit... qui est lié à un événement fort qu'ils ont vécu ensemble. Et donc, Faulkner arrive à retranscrire dans ses pages à la fois le dialogue anodin qu'il a avec ses amis pendant le pique-nique et tout ce qui est en train de se tramer dans sa tête en même temps et qui revient et qui ressasse ce dialogue avec sa sœur et ce pourquoi elle m'a dit ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il arrive en une même page à faire ressentir ces deux instants. Et ça, c'est une chose qu'on vit tout le temps. Des fois, on est dans un lieu et puis, en fait, on est obnubilé par autre chose. On n'est pas là. Arriver à faire ressentir ça dans une page, je trouve ça admirable. Et pour moi, c'est vraiment... Faulkner est, pour moi, un très grand styliste dans ces pages-là, vraiment à lire. Voilà.
Et ça, c'est fait. L'objectif, c'est à la fois de mettre sous le projecteur des auteurs peut-être plus confidentiels, et aussi, pourquoi pas, quand l'occasion se présente, des stars de l'édition.
Oui, des auteurs un peu plus grand public. On a envie de mettre en avant aussi des auteurs peu connus pour les mettre en lumière et découvrir des nouveaux talents. Mais on a rencontré aussi des auteurs. Il y a eu des éditeurs qui sont venus. Voilà, on essaye de parler du livre dans son ensemble, pas que les auteurs, mais également toute la chaîne du livre, en fait.
Aujourd'hui, la vie littéraire sur Champigny, ça représente 3 médiathèques. sur trois quartiers différents.
Oui, donc la médiathèque centrale qui est Place du Marché, Place Lénine, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Et il y a également deux bibliothèques de quartier, la bibliothèque André Malraux, donc laquelle, dans laquelle je travaille, qui est dans le quartier du Bois-l'Abbé, juste en face du collège Elsa Triolet, et également la médiathèque Gérard Philippe, qui est dans le centre culturel Gérard Philippe au premier étage.
Et justement, les Campinois qui viennent vous voir, la plus, les ouvrages qu'ils empruntent, on est plus sur quoi ? Sur du roman, sur de la bande dessinée, sur du manga
Alors, on est beaucoup sur, en tout cas dans les romans, plutôt les romans policiers. En tout cas, pour la bibliothèque André Malraux, c'est le fond qui marche le mieux. Je parle de ce que je connais. Et après, c'est vrai que les mangas et les bandes dessinées, aussi bien en jeunesse que dans le, en secteur adulte, ça marche aussi très bien.
Les médiathèques travaillent-elles avec les écoles ?
Oui, bien sûr. Nous, nous sommes en partenariat avec les écoles du quartier et on reçoit... alors, à la bibliothèque André Malraux, c'est trois écoles. Il y a trois créneaux par semaine, et dans les bibliothèques Gérard Philippe et Jean-Jacques Rousseau, c'est quatre créneaux par semaine. Donc on reçoit très régulièrement des classes pour des visites découvertes, des... il y a également des projets. Là, par exemple, moi, j'ai un projet avec le lycée Gabriel Péri pour les primo-arrivants. Donc c'est des lycéens qui, arrivent, qui sont arrivés depuis moins de 6 mois en France, et du coup, on a un projet de café-lecture. Donc on n'est pas très loin d'un livre dans le café, mais ça permet de... avec le support livre, aussi bien album, conte que bande dessinée, de parfaire en fait leur, leur niveau, enfin l'apprentissage du français et l'oralité.
J'ai entendu parler d'une thématique qui s'appelait « Do it yourself », donc « Faites-le vous-même ». Vous pouvez m'en dire plus ?
Oui, alors effectivement, c'est le, la thématique qui a été choisie pour l'an prochain.
Donc, il succède à Ombre et Lumière.
C'est ça, ça, oui. Et donc, sur le réseau des trois médiathèques, chaque médiathèque va essayer de développer ce thème de différentes façons, aussi bien pour le public enfant que, qu'adulte. Voilà. Et en même temps, le do-it-yourself, ça peut être aussi bien fabriquer ses produits cosmétiques soi-même que...
Donc, vous allez en fait inviter les Campinois tout au long de la saison à des rendez-vous, on va dire, qui s'écartent peut-être de la littérature, mais qui abordent des sujets de société. Par exemple, comment se nourrir en dehors des chemins traditionnels de la malbouffe ou de la bouffe industrielle, de la nourriture industrielle, et ou comment, effectivement, on peut imaginer une autre forme de consommation, notamment à travers le maquillage, je crois.
C'est ça. Donc ça, ça se passera, je crois, à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Et je sais qu'en secteur jeunesse, il y aura des... En tout cas, à Malraux, il y aura une exposition sur les livres-objets. Donc comment fabriquer son livre soi-même.
Ah, vous allez inviter les habitants à fabriquer leur livre.
Alors, je pense que ça sera une fabrication d'une exposition. On invitera d'abord les scolaires. Et après, enfin, c'est pas encore tout à fait déterminé. C'est en cours de construction. Mais oui, l'idée, c'est de... Que les enfants puissent mettre la main à la pâte et fabriquent des choses.
Dans le cadre d'un livre dans le café, je crois que vous avez aussi des temps forts dans la saison.
C'est cela. Donc, en fait, donc, en dehors des séances traditionnelles, habituelles, donc, où on est entre bibliothécaires et campinois, on invite également 2 à 3 fois dans l'année, en fonction des bibliothèques, un auteur... ou un éditeur.
Ce qui a été le cas avec Lise Beninka.
C'est ça, donc Lise Beninka qui était l'auteur invité cette année. Et à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, ils ont invité une éditrice en avril également, il me semble. Donc on essaye à chaque fois d'avoir un invité qui représente, qui puisse expliquer le métier et chaîne du livre.
Moi, je pensais qu'en fait, un livre dans le café, c'était systématiquement une rencontre avec un auteur et un public.
Non, non, c'est pas le cas.
D'accord.
L'idée première, c'était vraiment de parler du livre, soit en présentant des nouveautés ou en mettant l'accent sur des coups de cœur, ou vraiment, ça peut être des choses qu'on n'a pas du tout aimées et ça permet d'avoir un échange sur des livres. Donc c'est ça le plus important, c'est de pouvoir échanger et qu'on soit, en fait, que les bibliothécaires soient vraiment passeurs... puissent être là pour vraiment
avoir un moment privilégié avec
parler des livres et faire en sorte que les lecteurs présents, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui... Certains participent, d'autres veulent juste écouter, sont juste là pour prendre des infos, et puis s'ils ont envie de participer, ils le peuvent. Il n'y a pas d'obligation de prendre la parole, ça peut aussi intimider. Donc l'idée, c'est vraiment de passer un moment convivial. C'est pour ça que dans les séances, en tout cas dans les bibliothèques de quartier, Nous, enfin, les bibliothécaires, on présente systématiquement des livres pour être un support aussi. Et puis, les lecteurs qui viendront, qui auront envie de participer et de présenter des coups de cœur, le peuvent. Ils peuvent également aussi juste rebondir sur ce qu'on dit. Voilà. Et puis, à chaque séance, on présente une bibliographie des sélections de la séance précédente.
D'accord. Voilà. Et on peut venir assister à un livre dans le café à partir de quel âge ?
Adolescent, c'est possible. Hein. Bon, il faut avoir un intérêt pour la lecture. Hein. C'est mieux. Mais il y a pas de.
On peut partager un manga, un comics.
Bien sûr, c'est
d'accord.
Pas.
D'accord. Donc c'est pas uniquement ou exclusivement dédié à la littérature. C'est aussi à ce qu'on appelle voilà le 8e art avec la littérature.
J'ai des collègues qui ont présenté des BD, des mangas. Il y a des collègues de la discothèque qui ont présenté des CD pour un livre dans le café Calva Rousseau. Mm-hmm. Donc c'est vraiment ouvert à aux choses qu'on a lues, entendues, vues dans le mois, ou même des choses qui nous ont plu, qu'on a envie de partager. C'est vraiment l'idée du partage qui est importante. Et voilà, de parler des choses qu'on a aimées, pas aimées, et d'avoir un petit échange autour de ça.
Eh bien, Lisa Seppel, merci de nous avoir consacré ces quelques instants. Au plaisir de vous retrouver dans l'une de nos prochains rendez-vous et médiathèques.
Très bien, merci à vous.
Bon Cyril, si avec tout ça, ça t'a pas donné envie de pousser une des portes des trois médiathèques de Champigny ou d'ouvrir une page d'un bouquin, franchement...
Ah oh, si, quand même un peu.
Ah, je suis ravie d'avoir donné l'envie de lire.
Eh ben, c'est super. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine émission. Alors, Cyril, je te dis à très vite. Au revoir, Cyril.
À bientôt, messieurs.
Au revoir.
Et à très bientôt sur Ulysse. Cette émission, initiée par la Direction des politiques culturelles de Champigny-sur-Marne, a été réalisée par Cyril Poirier et animée par Christophe Allemann depuis le studio d'enregistrement de la Maison pour tous du Bois-l'Abbé.